RFI, il est 11h à Paris, 10h en temps universel, 19h à Séoul.
Juliette Pietraszewski.
À la une de ce journal, en Corée du Sud, un mandat d'arrêt contre le président déchu Yoon Suk-yeol. C'est ce que demandent des enquêteurs après sa tentative ratée d'imposer la loi martiale dans le pays. On fera le point avec notre correspondante. En Géorgie, Mireille Kavelashvili est officiellement le nouveau président du pays depuis hier. Les manifestants pro-européens continuent leur mobilisation, un mouvement qui pourrait se poursuivre pendant encore longtemps. Reportage à suivre. Dans l'actualité aussi, en Syrie, des déclarations qui attirent l'attention. Le responsable de l'administration des opérations militaires syriennes a donné une interview à une chaîne saoudienne ce week-end. L'organisation d'élections pourrait prendre jusqu'à 4 ans, a-t-il notamment déclaré. Et on prend la direction de la Corée du Sud, où les enquêteurs demandent un mandat d'arrêt contre le président déchu, Yoon Suk-yeol. Un mandat d'arrêt pour sa tentative ratée d'imposer la loi martiale dans le pays. C'était le 3 décembre dernier. Yoon Suk-yeol avait envoyé l'armée au Parlement. On revient sur les dernières péripéties autour de cette demande de mandat d'arrêt avec notre correspondante à Séoul, Camille Ruiz.
Les doutes se resserrent sur le président de la Corée du Sud, Yoon Suk-yeol. Le chef d'État suspendu refusait de se présenter devant les enquêteurs. Il doit être interrogé car il est accusé de rébellion et d'abus de pouvoir. Dimanche, c'était la troisième convocation du bureau d'enquête sur la corruption des hauts fonctionnaires. Le chef d'État suspendu, Yoon Suk-yeol, l'a encore une fois ignoré. Résultat, une équipe d'enquêteurs a demandé un mandat d'arrêt. Une équipe composée à la fois du bureau d'enquête sur la corruption des hauts fonctionnaires, de policiers et d'une unité spéciale du ministère de la Défense. La demande a été déposée à minuit, heure locale, dans un tribunal de Séoul dimanche. Yoon Suk-yeol, lui, a réfuté les accusations et parle d'un acte de gouvernance. Par ailleurs, d'après les médias locaux, le président déchu refuse d'accuser réception des convocations de la Cour constitutionnelle. C'est la première fois que les forces de l'ordre tentent d'arrêter un chef d'État depuis 1987 et la fin de la dictature militaire. Camille Ruiz, Séoul, RFI.
La Corée du Sud est également en deuil aujourd'hui. Les drapeaux sont en berne après un terrible accident aérien hier. Un avion de la compagnie Jeju Air en provenance de Bangkok a atterri sur le ventre dans l'aéroport de Muan, dans le sud-ouest du pays, avec de la fumée sortant des moteurs. L'appareil a percuté un mur en bout de piste. 179 personnes sont mortes sur 181 passagers. La Corée du Sud a annoncé lancer l'inspection de tous ses Boeing 737-800 après ce drame qui est désormais le pire crash sur son sol. Décision qui intervient aussi alors que ce lundi matin, un autre Boeing 737-800 de la même compagnie a rencontré un problème lié au train d'atterrissage.
RFI.
En Croatie, le président sortant, Zoran Milanovic, a manqué de peu de gagner son élection dès le premier tour hier. Il a remporté 49% des voix. Il va donc affronter lors d'un deuxième tour le candidat des conservateurs au pouvoir, Dragan Primorac. La participation au premier tour était de 46%. Depuis 24 heures maintenant, la Géorgie a désormais un nouveau président, le contesté Mireille Kavelashvili. Ancien footballeur et d'extrême droite, il a prêté serment hier, mais la contestation continue. Hier soir encore, des nouvelles manifestations ont eu lieu. Il y a donc cette question, quelle sera la suite pour la Géorgie? À l'heure actuelle, le rêve géorgien, le parti pro-russe, contrôle désormais tous les pouvoirs, mais les opposants pro-européens se préparent à un mouvement dans la durée. Notre envoyé spécial à Tbilissi, Julien Chavanne, a rencontré une manifestante déterminée à continuer la mobilisation.
On y trouve toujours du thé, quelques biscuits et un peu de chaleur. Le bar de ce petit hôtel sert de base de repli pour les manifestants. Tamar Chigadze y est tous les soirs depuis 31 jours et ce n'est pas prêt de changer.
Nous savons que cette lutte ne va pas se terminer ni aujourd'hui ni demain. Ça va durer dans le temps, on est prêt pour cela et on ne va rien lâcher.
Pour cette thérapeute en addiction, la contestation est un marathon plus qu'un sprint.
Il y a quelques jours, on entendait dire qu'il y avait moins de monde, mais tout d'un coup, 300 000 personnes sont venues. Ça veut dire que quand il faut, il y aura 300 000 personnes au plus qui vont se mobiliser sur l'avenue Rojtavili.
Mais ça n'a pas suffi jusqu'à présent pour faire plier le pouvoir. Tamar Chigadze se concentre sur le positif.
Ce qui a changé, c'est que beaucoup de Géorgiens qui ne comprenaient pas ce qu'il se passait ont vu la réalité. L'Europe aussi a entendu notre voix. Le milliardaire Ivanishvili a été sanctionné et on espère qu'il y aura encore plus de sanctions contre le régime.
Avant de quitter le palais présidentiel, Salomé Zourabichvili a appelé ses partisans à passer le réveillon avec elle devant le Parlement. Tamar sera là pour distribuer du thé. Julien Chavannes, Irma Inaridze, Tbilissi, RFI.
Et à noter que 6 personnes ont été arrêtées par la police hier devant le Parlement. En Serbie, un ex-ministre parmi les 13 personnes inculpées. Il s'agit de l'ancien ministre des Transports, Goran Vesic. Inculpation donc en lien avec le drame de l'effondrement du toit de la gare de Novi Sad qui a fait 15 morts début novembre. Drame qui a déclenché d'importantes manifestations, notamment à Belgrade ces 2 derniers mois. Une mobilisation étudiante notamment contre la corruption au pouvoir avait-il scandé pendant plusieurs semaines. En Syrie, après la chute de Bachar el-Assad, l'organisation d'élections pourrait prendre jusqu'à 4 ans. Déclaration du commandant en chef de l'administration des opérations militaires syriennes, Ahmed al-Shara, aussi appelé Mohamed al-Jolani, à l'occasion d'une interview accordée à la chaîne saoudienne Al Arabiya. Ce dernier a placé les problèmes économiques des Syriens en tête des priorités du gouvernement intérimaire. Selon lui, les Syriens ressentiront les résultats du changement de régime dans un délai d'un an. Plus d'explications de notre correspondant à Damas, Mohamed Erami.
La révision de la Constitution garantissant la liberté d'expression et de manifestation, les droits des femmes et des minorités, ainsi que l'organisation d'élections présidentielles, ont occupé une place importante dans les assurances données par le nouveau chef de la Syrie, Ahmed al-Shara, au peuple syrien, lors d'une intervention médiatique sur la chaîne Al Arabiya.
Les lois et les droits doivent être inscrits dans la Constitution selon les vœux des Syriens. Notre mission sera de l'appliquer, de la préserver et de la protéger.
Al-Shara a également adressé plusieurs messages à l'étranger au cours de ses déclarations. Le premier visait à rassurer les pays voisins, y compris Israël, en affirmant qu'il ne serait pas ciblé ni impliqué dans un conflit avec la Syrie. Le second était une invitation adressée aux pays directement impliqués dans la crise syrienne, à savoir la Russie et l'Iran, leur demandant de respecter la volonté des Syriens et de ne pas interférer dans leurs affaires internes.
Je pense que les Israéliens ont justifié leur intervention en Syrie par la présence des milices iraniennes et du Hezbollah dans le pays. Mais aujourd'hui, ces justifications appartiennent au passé.
Enfin, al-Shara a exhorté le prochain président des États-Unis, Donald Trump, à ne pas suivre la politique de l'administration précédente. Il a appelé à soutenir les Syriens dans la reconstruction de leur pays, notamment en levant les sanctions économiques imposées à la Syrie. Mohamed Erami, Damas, RFI.
Et toujours à l'occasion de cette interview du commandant en chef de l'administration des opérations militaires syriennes, le responsable a également déclaré que les forces kurdes seront intégrées à l'armée syrienne. Et plus précisément, les forces démocratiques syriennes dirigées par les Kurdes et appuyées par les États-Unis. Déclaration qui est intervenue peu de temps après un entretien téléphonique ce week-end entre le chef de la diplomatie turque et son homologue américain, Anthony Blinken. Entretien dans lequel le chef de la diplomatie turque a déclaré que les combattants kurdes syriens ne pouvait pas être toléré en Syrie. Pour rappel, la Turquie est très proche des nouvelles autorités à Damas et considère les FDS comme une extension de son ennemi juré, le Parti des travailleurs du Kurdistan. Au Nigeria, le riz est le produit alimentaire de base. Eh bien, il vient d'atteindre un prix record après une nouvelle hausse de 8% en décembre. Le gouvernement n'arrive pas à juguler la crise inflationniste qui appauvrit et affame une grande partie de la population. Explication de Claire Fage.
75 000 naira, 48,50 $ et jusqu'à 99 000 naira dans la capitale Abuja. Le prix du sac de 50 kilos de riz dépasse désormais largement le salaire mensuel minimum au Nigeria. L'inflation alimentaire est au plus haut depuis 28 ans, près de 40% sur l'année. Les 2/3 des foyers nigérians souffriraient de la faim, selon l'Agence statistique nationale. Au moins 48 personnes sont mortes dans des bousculades lors de distribution de nourriture la semaine dernière. Le gouvernement de Bola Tinubu ne parvient pas à juguler l'inflation depuis qu'il a laissé flotter la monnaie nationale par rapport au dollar et supprimé les subventions sur le carburant. Rien n'y fait, ni le relèvement à 27,5% des taux d'intérêt, ni la proclamation d'un état d'urgence alimentaire, ni la suppression des taxes sur les importations. Le président nigérian a rappelé lundi dernier qu'il n'avait pas l'intention d'imposer un contrôle des prix, mais plutôt d'accorder des incitations à augmenter la production agricole nationale et que son gouvernement avait commandé 2000 tracteurs.
Les explications de Claire Fage, et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie.